Pascal parut s'enfoncer plus encore dans le travail. Il avait, à présent, des séances de 4 et 5 heures, des matinées, des après-midi entières où il ne levait pas la tête. Il outrait sans elle, défendant qu'on le dérangeât, qu'on lui adressât un seul mot. Et parfois, lorsque Clotilde sortait sur la pointe des pieds, ayant à donner des ordres, en bas ou à faire une course, il s'assurait d'un coup d'œil furtif qu'elle n'était plus là. Puis il laissait tomber sa tête au bord de la table, d'un air d'accablement immense. C'était une détente douloureuse à l'extraordinaire effort qu'il devait s'imposer quand il la sentait près de lui, pour rester devant sa table et ne pas la prendre dans ses bras et ne pas la garder ainsi pendant des heures à la baiser doucement. Ah, le travail! Quel ardent appel il lui faisait, comme au seul refuge où il espérait s'étourdir, s'anéantir. Mais le plus souvent, il ne pouvait travailler. Il devait jouer la comédie de l'attention, ses yeux sur la page, ses tristes yeux qui se voilaient de larmes, tandis que sa pensée agonisait, brouillée, fuyante, toujours emplie de la même image. Allait-il donc assister à cette faillite du travail, lui qui le croyait souverain, créateur unique, régulateur du monde? Fallait-il jeter l'outil, renoncer à l'action, ne faire plus que vivre, aimer les belles filles qui passent? Ou bien n'était-ce que la faute de sa sénilité s'il devenait incapable d'écrire une page, comme il était incapable de faire un enfant? La peur de l'impuissance l'avait toujours tourmenté. Pendant que, la joue contre la table, il restait sans force, accablé de sa misère, il rêvait qu'il avait 30 ans, qu'il puisait chaque nuit, au cou de Clotilde, la vigueur de sa besogne du lendemain. Et des pleurs coulaient sur sa barbe blanche. Et s'il l'entendait remonter, vivement il se redressait. Il reprenait sa plume pour qu'elle le retrouvât comme elle l'avait laissé, l'air enfoncé dans une méditation profonde où il n'y avait que de la détresse et que du vide. On était au milieu de septembre. 2 semaines interminables s'étaient écoulées dans ce malaise, sans amener aucune solution. Lorsque Clotilde, un matin, eut la grande surprise de voir entrer sa grand-mère Félicité. La veille, Pascal l'avait rencontré rue de la Banne et, impatient de consommer le sacrifice, ne trouvant pas en lui la force de la rupture, il s'était confié à elle, malgré ses répugnances, en la priant de venir le lendemain. Justement, elle avait reçu une nouvelle lettre de Maxime, tout à fait désolée et suppliante. D'abord, elle expliqua sa présence. « Oui, c'est moi, mignonne, et pour que je remette les pieds ici, il faut, tu le comprends, que de bien graves raisons me déterminent. Mais, en vérité, tu deviens folle. Je ne peux pas te laisser ainsi gâcher ton existence sans t'éclairer une dernière fois. » Elle lut tout de suite la lettre de Maxime, d'une voix mouillée. Il était cloué dans un fauteuil, il semblait frappé d'une ataxie à marche rapide, très douloureuse. Aussi exigeait-il une réponse définitive de sa sœur, espérant encore qu'elle viendrait, tremblant à l'idée d'en être réduit à chercher une autre garde malade. Ce serait pourtant ce qu'il se verrait forcé de faire si on l'abandonnait dans sa triste situation. Et, quand elle eut terminé sa lecture, elle donna à entendre combien il serait fâcheux de laisser aller la fortune de Maxime en des mains étrangères. Mais, surtout, elle parla de devoir, du secours qu'on doit à un parent, en affectant, elle aussi, de prétendre qu'il y avait eu une promesse formelle. « Mignonne, voyons, fais appel à ta mémoire. Tu lui as dit que, s'il avait jamais besoin de toi, tu irais le rejoindre. Je t'entends encore. N'est-ce pas, mon fils ?» Pascal, depuis que sa mère était là, se taisait, la laissait agir, pâle et la tête basse. Il ne répondit que par un léger signe affirmatif. Ensuite, Félicité reprit toutes les raisons qu'il avait lui-même données à Clotilde. L'affreux scandale qui tournait à l'insulte, la misère menaçante, si lourde pour eux deux, l'impossibilité de continuer cette existence mauvaise, où lui, vieillissant, perdrait son reste de santé, où elle, si jeune, achèverait de compromettre sa vie entière. Quel avenir pouvait-il espérer, maintenant que la pauvreté était venue? C'était imbécile et cruel de s'entêter ainsi. Toute droite et le visage fermé, Clotilde gardait le silence, refusant même la discussion. Mais, comme sa grand-mère la pressait, la harcelait, elle dit enfin « Encore une fois, je n'ai aucun devoir envers mon frère. Mon devoir est ici. Il peut disposer de sa fortune, je n'en veux pas. Quand nous serons trop pauvres, maître renverra Martine et il me gardera comme servante. » Elle acheva d'un geste. Oh oui, se dévouer à son prince, lui donner sa vie, mendier plutôt le long des routes en le menant par la main. Puis, au retour, ainsi que le soir où ils étaient allés de porte en porte, lui faire le don de sa jeunesse et le réchauffer entre ses bras purs. La vieille madame Rougon hocha le menton. Avant d'être sa servante, tu aurais mieux fait de commencer par être sa femme. Pourquoi ne vous êtes-vous pas mariée? C'était plus simple et plus propre. Elle rappela qu'un jour, elle était venue pour exiger ce mariage, afin d'étouffer le scandale naissant. Et la jeune fille s'était montrée surprise, disant que ni elle ni le docteur n'avaient songé à cela, mais que, s'il le fallait, ils s'épouseraient tout de même, plus tard, puisque rien ne pressait. « Nous marier? Je le veux bien !» s'écria Clotilde. « Tu as raison, grand-mère !» Et, s'adressant à Pascal, « 100 fois, tu m'as répété que tu ferais ce que je voudrais. Tu entends? Épouse-moi. Je serai ta femme et je resterai. Une femme ne quitte pas son mari. » Mais il ne répondit que par un geste, comme s'il eût craint que sa voix ne le trahît, et qu'il n'accepta, dans un cri de gratitude, cet éternel lien qu'elle lui proposait. Son geste pouvait signifier une hésitation, un refus. À quoi bon ce mariage in extremis quand tout s'effondrait? Sans doute,